Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, pas de mêlée stable sans lui dans l'émission, c'est notre rampe de lancement, Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
C'est sa première titularisation aujourd'hui, c'est un grand amateur de la balle jaune que beaucoup de Français ont du mal à percevoir sur un court, c'est Aliou Alassane. Salut Aliou. Une nouvelle fois invité d'honneur aujourd'hui, plusieurs capas sont actifs dans nos studios, c'est le président du rugby club de Versailles qui nous dira si on lui a porté chance ou pas tout à l'heure. Olivier Néroneuf est avec nous, bonjour Olivier.
Bonjour, président délégué.
Président délégué, pardon, effectivement.
Du rugby club de Versailles.
Ah, vous savez, les raccourcis dans l'émission, on est coutumier du fait. Hein. Allez, émission Omnisport aujourd'hui, de la petite balle jaune à la boucherie de l'Ovalie. Et oui, c'est tout de suite. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, vous saurez tout sur le club de rugby qui gagne en ce moment dans les Yvelines. Le club de Versailles est représenté par son président délégué, Olivier Néroneuf. Interview prévue aux alentours de 17h40. En attendant, nous allons longuement revenir sur le rugby qui perd cette fois-ci. Et oui, avec cet énorme naufrage encore hier à Twickenham, où le 15 de France s'est mangé toutes les épines du 15 de la Rose. Et en parlant de défaite à la mode côté français, on discutera avec Aliou, qui nous dira si Richard Gasquet est concerné par les scandales de paris truqués dans le tennis. Cela expliquerait alors pourquoi est-il si souvent abonné à la défaite. Mais plus sérieusement, tour d'horizon sur la planète tennis durant cette émission. Et puis demain, le grand choc entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Deux équipes aux trajectoires inverses et nous verrons s'il y a lieu de mettre au grand débat la question d'un Frexit dans les compétitions sportives lorsqu'une équipe française affronte une équipe venant d'Angleterre. Et oui, on va pas s'abonner tout le temps à la défaite contre les Anglais, messieurs. Allez, les débats, c'est ouvert, tout de suite.
Hé, hey, Toshiba, là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye, là, pour jouer avec tes pieds, connard?
Et oui, et combien les joueurs de tennis français sont-ils payés pour jouer avec leurs mains ou leurs poignets? C'est la question qu'on pourrait se poser. Bon, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de tennis dans cette émission, et pourtant, enfin, on aime bien le tennis, mais voilà, le créneau est un peu compliqué peut-être pour les dirigeants sportifs du coin. Mais bon, l'Open d'Australie s'est achevé il y a à peine une dizaine de jours. Et eh bien, il y a des tendances qui s'affichent ces dernières années. Voilà, alors si on fait avec toi, Aliou, l'état de forme du tennis général, du tennis mondial, si on peut résumer les choses de la manière suivante, c'est-à-dire que vers le milieu des années 2000, on avait Federer et puis Nadal qui étaient au top de leur forme et puis qui trustaient tous les titres de Grand Chelem. Puis après, on a eu Djokovic au début, fin des années 2000, qui a élevé son niveau de jeu, qui a aussi performé du fait qu'il n'arrêtait pas d'enchaîner les défaites contre Nadal et puis Federer. Et il s'est mis à jouer comme une machine et il pratiquait un tennis de rêve. Puis on a eu, après les JO de Londres, le déclic pour Andy Murray. Qui avait donc gagné le titre en simple et puis en double. C'était aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ça a été le déclic pour lui, puisqu'il a enchaîné ensuite sur ses premiers titres de Grand Chelem. Et puis ensuite, bon, Nadal et puis Federer étaient dans le creux de la vague. Et puis on imaginait donc comment dire, la relève incarnée par Raonic, Zverev, Kyrgios, qui encore Cilic.
Bien avant, on avait avant les Zverev, on avait quand même un œil attentif sur les Raonic, sur les Nishikori, sur les Cilic. Dimitrov aussi.
Ouais,
Dimitrov. Ils ont pas mal déçu. Et ensuite, ben, y a eu cette Next Gen qui aujourd'hui est incarnée à la tête de cette, cette génération appelée la Next Gen. On a aujourd'hui Alexander Zverev qui est numéro 3-4 mondial. Il est numéro 4 mondial. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, clairement, les Federer, Nadal et Djokovic, non, ils sont intouchables. Ils sont clairement intouchables aujourd'hui.
Oui, et puis, enfin, il y a quelques années, je crois, il y a deux ans, Roger Federer, il refait finale à l'Open d'Australie, à surprise générale, et puis il gagne. Alors que pendant 4-5 ans, il n'avait plus rien gagné.
Ah oui, le dernier tournoi du Grand Chelem qu'il avait gagné, c'était en 2012. Bah, c'était face à Andy Murray à Wimbledon. Ouais. C'était vraiment le dernier tournoi du Grand Chelem qui gagne. Il faut savoir que depuis 2011, on est vraiment sous l'ère Djokovic, depuis 2011. De 2011 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2019, Djokovic, il a quand même remporté pas mal de 10 titres du Grand Chelem, Djokovic.
Il les a partagés un peu avec Andy Murray.
Andy Murray, il en a remporté 3.
Ouais, mais sur une courte période.
Oui, et sur une courte période. Voilà, après... Mais on est clairement dans l'ère Djokovic.
Après, sa première victoire, c'était pas contre Tsonga en finale de l'Open d'Australie
2009.
Ouais.
Et Djoko perd le premier set d'ailleurs. Et ensuite, après, il était intouchable sur ce tournoi. Mais pour revenir à ce qu'on disait, Federer, en 2017, quand il gagne, il est quand même tête de série 17. Mmh. Personne se dit qu'il peut gagner. Et il fait un tournoi magnifique, il remporte le tournoi. Et en 2018, il revient, il gagne en finale contre Cilic encore.
Oui, et puis finalement, donc l'année où Federer, où c'est la résurrection de Federer, c'est aussi la résurrection de Nadal.
Exactement.
Puisque à eux deux, ils ont gagné chacun les deux titres, ils ont gagné chacun deux titres du Grand Chelem.
Exactement. Federer qui gagne l'Open d'Australie 2017, Nadal qui gagne Roland-Garros, Federer qui gagne Wimbledon. Et puis Nadal qui gagne l'US Open. Ils sont partagés les titres en 2017. Les titres n'étaient que pour eux.
Ouais, donc c'est incroyable ça. On attendait vraiment la nouvelle génération. Et puis, c'est fait taper par les légendes du circuit. Peut-être se sont-ils vus trop beaux avant d'avoir soulevé le titre. Olivier, vous suivez activement le tennis ?
Ah, mais je suis tennis parce que j'ai été en seconde série au tennis. Je faisais à la fois du rugby en National 3 et en même temps du rugby du tennis en compétition au Grand Versailles, avec le tennis club du Grand Versailles. Donc j'ai toujours suivi le tennis et bon, maintenant je suis plutôt de l'époque du génie de McEnroe et des coups de gueule sur le terrain. Ça, c'était ma passion, c'était mon tennis. Aujourd'hui, c'est quand même un tennis qui est quand même plus neutre. Bien sûr qu'il est beau, bien sûr qu'il est puissant, bien sûr que, mais il manque encore de temps en temps quand même une étincelle de génie qui avait à une époque ou alors qui crée la passion autour du stade.
On va dire qu'il y a moins de services volés, ça c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui franchement, on vit dans une période de tennis incroyable. On a vraiment la chance d'être là. On a vraiment la chance aujourd'hui franchement d'être là. On a vraiment les trois meilleurs joueurs du monde de l'histoire du tennis qui jouent dans la même période. C'est quand même incroyable.
Le retour de Nadal est d'ailleurs surprenant parce qu'il était quasiment à l'agonie il y a 3 ans, 4 ans.
C'est vrai, il était à l'agonie. Il n'a pas suivi les recommandations entre guillemets de l'opinion tennistique qui lui disait de mettre à la porte Tony Nadal. Bien au contraire, il a gardé Tony Nadal et il a pris aussi Carlos Moya qui a révolutionné son jeu. Et Nadal est revenu alors que tout le monde voyait déjà Nadal à la retraite.
Oui, et puis alors chez les femmes, il y a une petite révolution en ce moment. Enfin, sur les deux derniers grands tournois du Grand Chelem, où c'est une japonaise, Naomi Osaka. Alors c'est une japonaise qui vit aux États-Unis.
Une japonaise qui ne sait pas parler japonais.
Donc elle est née au Japon.
Comment ça, une japonaise qui ne sait pas parler japonais?
Elle ne sait pas.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, Ali?
Ouais, Naomi Osaka, en fait, c'est née d'un père japonais et d'une mère antillaise.
L'inverse, d'une mère japonaise et puis d'un père hawaïen, haïtien.
Exactement. Qui est née au Japon, qui a grandi aux États-Unis, mais du coup, elle a fait là-bas ses études en tennis et tout.
Donc elle est jeune, à 21 ans.
Ouais, à 21 ans. Et puis,
Pourquoi elle joue pour le Japon, du coup?
Parce que c'est sa nationalité.
D'accord, c'est sa nationalité. Elle n'a pas changé de.
Elle a toujours été japonaise, mais ayant vécu à l'étranger. Et donc, elle a gagné le dernier Open d'Australie, alors qu'elle avait déjà battu, il me semble que c'était lors de l'US Open.
Ouais. Dans une finale très controversée à Serena, ouais. Serena Williams à l'US Open. Très belle finale, controversée ouais. par rapport au jugement de l'arbitre.
Donc on rappelle l'effet de jeu, Patrick Mouratoglou, son coach,
voilà.
qui
fait du coaching.
Voilà, qui fait du coaching, alors c'est interdit.
Et puis ensuite, l'arbitre,
sanctionné par l'arbitre.
Albert Ramos la sanctionne. Au début, lui met un warning, après ensuite la sanctionne d'un jeu. Et après ensuite, elle s'est énervée contre lui, il la sanctionne clairement d'un point. Et puis, voilà, Naomi Osaka. Après. Naomi Osaka n'avait pas besoin de ça, elle aurait gagné ce jour-là. Tout le monde le sait, elle était au-dessus de Serena Williams. Mais ça est venu un peu gâcher la fête. Et puis, la finale a pris toute une tournure. On a un peu oublié la victoire de Naomi Osaka. On s'est plus penché sur.
Cette polémique.
Sur la polémique, de oui, de l'arbitrage. Voilà.
Oui, et puis pourtant, enfin, belle histoire, puisque Serena Williams, c'était ça. Son idole de toujours, elle était limite gênée à la fin du match de l'avoir battu.
Exactement.
En disant, d'abord je m'excuse, et puis ensuite, voilà, elle essayait de réciter son discours de championne. Et voilà, elle a encore du mal sur les discours de championne.
Exactement. C'est une fille très très discrète, Naomi Osaka, qui laisse paraître très très peu d'émotions sur le court. Très peu d'émotions. Par contre, lors de la finale de l'Open d'Australie, elle a pleuré. C'est très rare de la voir comme ça, aussi émotive. Elle a servi quand même pour le match. Elle a perdu 2 balles de match. Et par derrière, c'était Kvitova qui est revenue à 1-7 partout. Elle a pleuré devant tout le monde. Elle est rentrée dans le vestiaire. Tout le monde a vu qu'elle était vraiment frustrée. Mais après, quand elle est revenue, voilà quoi. Elle a donné les stockades finales et on a assisté vraiment à un super match.
Mais du coup, je vais transposer la question chez les femmes. Est-ce qu'on a une nouvelle génération chez les femmes capable de prendre la relève de Serena Williams ?
C'est une très bonne question. En fait, Serena Williams, aujourd'hui, depuis qu'elle est accouchée, qu'elle est revenue sur le court, elle n'a pas encore gagné de titre du Grand Chelem. Elle court encore derrière, bien sûr, c'est le record. Après,
Record c'est 24, c'est ça ?
Le record c'est 24, le record de Chris Evert, elle y court encore. Mais depuis, on peut dire ça comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu déjà une femme gagner 2 titres du Grand Chelem comme ça, consécutifs, hors Serena Williams. Là, on l'a vu avec Naomi Osaka, elle a enchaîné l'US Open puis l'Open d'Australie. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on a vu ça. Et Naomi Osaka, je pense qu'on va entendre.
Ouais, toi, par rapport aux qualités que tu vois chez la japonaise, tu sens qu'elle pourrait devenir très grande.
Ah oui, c'est une très grande. C'est la future Serena Williams du circuit féminin. Ah, c'est clair, c'est très clair.
On peut voir des similitudes dans son jeu, des coups droits puissants.
Non, pas trop. C'est Naomi Osaka, c'est plus
un autre style.
C'est un autre style. C'est un peu un style à la Ostapenko où c'est vraiment kamikaze. Où vraiment, elle ne construit pas énormément ses frappes. Elle va plutôt chercher directement le coup direct pour faire le coup gagnant. Ce n'est pas du tout un peu comme Serena Williams qui d'abord est basée, son jeu est basé sur une première balle déjà. Elle a une énorme première balle. Ensuite, elle ne laisse pas beaucoup par rapport à la couverture de terrain. Non, ce n'est pas du tout pareil.
Et donc, Naomi Osaka qui est numéro 1 au classement WTA. Et puis on retrouve derrière elle des filles qui ont remporté à tour de rôle des tournois comme Kvitova, Simona Halep, Kerber, Wozniacki ou encore Muguruza. Toi, tu Serena Williams, à son âge 37 ans, tu la vois aller chercher ce record ou alors
je la vois encore gagner 2-3 tournois du Grand Chelem. Mm-hmm. Je veux pas dire facile, mais Serena Williams, aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Serena Williams, normalement, il y a eu son match en quart de finale contre Pliskova, excusez-moi, il est énorme quand même. Serena Williams a 3 balles de match. Elle mène 5-1. Elle sert 3 fois pour le match. Mmh. Je ne sais pas pour les adeptes du tennis qui nous écoutent, mais moi, je n'avais encore jamais vu ça de ma vie. Jamais vu, j'en revenais pas. Comment Serena Williams a fait perdre ce match ? Personne n'en revient, même Patrick Mouratoglou ensuite. Ouais. Sur le plateau, on lui demande, mais Serena Williams a vraiment perdu ? Il dit, je sais pas, c'est impossible de perdre ce match. Donc ouais, Serena Williams, normalement, elle est clairement en demi, voire même en finale. Elle perd ce match bêtement, ouais, Serena Williams, clairement. je pense que c'est l'une des favorites pour Roland-Garros. Mmh. Voilà.
Elle n'a pas un problème de physique ?
Non, pas du tout. Elle avait un léger problème de physique, mais depuis qu'elle est... Voilà, elle a réglé ça maintenant, aujourd'hui, elle est au top. Alors c'est plus un problème psychologique aujourd'hui parce qu'elle veut vraiment battre ce record. Et donc, du coup, bah, ça cale.
Ça...
Et
ce crise.
Et est-ce que la complicité existe toujours avec sa sœur, Vénus ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours.
Ouais, du coup, Vénus qui a des performances plutôt en retrait,
oui,
par
on
rapport
peut,
à ce qu'on
oui,
pouvait lui connaître.
Oui, après Vénus, elle a quand même 38.
La sœur aînée.
Ouais, la sœur aînée, elle est à l'aube de la quarantaine, on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Et puis Vénus, elle est plus là pour prendre du plaisir qu'autre chose. Mais elle sait qu'un tournoi du Grand Chelem, non, c'est fini.
Alors, on parlait de Patrick Mouratoglou, donc, qui est le coach français hein, de Serena Williams. Comment est-ce que tu évalues toi la relation entre les deux?
Bah déjà Patrick Mouratoglou, faut savoir que l'académie qu'il a à Nice, c'est une très très bonne académie où il y a pas mal de jeunes qui sortent.
Ouais.
On a vu.
Et puis enfin juste excuse-moi une parenthèse, l'ancienne académie de Mouratoglou, elle était dans les Yvelines à Tiverval. Hein.
Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui elle est à Nice.
Ouais.
Il y a pas mal de grands champions qui tapent la balle là-bas. On sait que Dimitrov tape souvent la balle là-bas. Djokovic, qui est résident à Monaco aussi, tape souvent la balle là-bas.
Ouais. Tsitsipas aussi maintenant.
Tsitsipas sort de l'académie Mouratoglou. Et dans les tournois jeunes juniors, les juniors à Roland-Garros ou les juniors US Open, comme les juniors cette année à l'Open d'Australie, souvent ce sont des jeunes qui sont issus de l'académie Mouratoglou qui atteignent les finales ou voire même gagnent ces tournois-là. Donc voilà. Après ensuite, la complicité qu'il a avec Serena Williams, c'est quand même énorme, faut voir. Faut vraiment, vraiment, vraiment le voir. Au-delà de voir à la télé, faut vraiment le voir en vrai, parce que j'ai quand même la chance de souvent voyager à l'étranger pour aller voir ces tournois-là. Ils sont vraiment dans le détail près, les deux. Et franchement, c'est très, très admiratif. Et c'est dommage, je trouve dommage, qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas bénéficier d'un Patrice Mouratoglou à la tête de la Fédération française, par exemple, de tennis, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
Ouais, à la tête de la Fédération, carrément, pas forcément en tant que coach de l'équipe de France masculine ou féminine.
Bah moi, je l'aurais bien vu à la tête. Quand on a rappelé Noah, je me suis dit, pourquoi on rappelle Noah? On a quand même un type comme Mouratoglou aujourd'hui qui coach quand même la meilleure joueuse, on peut le dire, de tous les temps. Et qui s'y connaît quand même. Mmh. Le gars, il s'y connaît très bien en tennis.
Peut-être qu'il ne vient pas du circuit fédéral comme c'est l'habitude.
Comme c'est l'habitude et tout. Et puis, je pense qu'il avait tapé aussi à la porte. À un moment donné, il leur a fait un peu des appels de phare. Ils n'ont pas dû voir ça à la fédération ou peut-être qu'il n'est pas très désirable, je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, c'est très dommage.
Ouais. Et alors, enfin, du coup, j'amorce là petit à petit ma transition. Quid des Françaises et puis des Français dans tout ça, dans leurs résultats, dans leur tournoi? Alors, effectivement, le dernier gros résultat de Lucas Pouille va me démentir, puisqu'il a fait demi-finale quand même de l'Open d'Australie. C'est sa plus haute performance lors d'un tournoi du Grand Chelem, mais sinon en dehors de tout ça, enfin les quatre mousquetaires ont complètement disparu de la circulation. Et puis du côté des filles, Caroline Garcia qui est le porte-drapeau du tennis français chez les féminines. Bon, elle est encore très irrégulière.
Bon, déjà chez les hommes, le problème, c'est que la relève, elle tarde vraiment, vraiment, vraiment à venir.
Voilà, parce que les quatre mousquetaires, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on en parle, Olivier.
Et oui, parce que après, voilà, la relève tarde à revenir. Hier, Tsonga, il gagne en finale contre Herbert. Je pense pas qu'il gagne parce qu'il est supérieur à Herbert. Je pense que les quatre mousquetaires, ils ont un ascendant psychologique sur les autres qui fait que, ben, quand il est en finale face quand un joueur français joue l'un de ces quatre mousquetaires, l'ascendant psychologique, il est énorme. Herbert, il bat quand même Berdych. Et Berdych, il revient petit à petit, mais Berdych, il évolue, franchement, il a un niveau énorme. Herbert, il arrive à battre Berdych. Tsonga, quand il joue face à Berdych, il a un peu de mal. Herbert, il bat Berdych facilement. Et il perd contre Tsonga hier, en finale. Donc Tsonga, il revient petit à petit, mais je pense pour les quatre mousquetaires, je pense que c'est mort et la relève prend du temps. Lucas Pouille, a fait une année catastrophique l'an passé. Il revient aujourd'hui, auréolé d'un nouveau coach, Amélie Mauresmo, qui fait un travail énorme, franchement, avec lui. Mm-hmm. Parce que faut le voir comment Lucas Pouille aujourd'hui évolue. Il maintient de plus en plus sa ligne de fond de court. Il tape mieux la balle en revers. Et il a fait quand même une demi-finale à l'Open d'Australie. Il joue contre le futur vainqueur, contre Djoko. Il ne peut strictement rien faire. Mais il faut voir la demi-finale contre Raonic quand même. Il perd le premier set en tie-break. Mais derrière, il lui colle 3 sets à Raonic. C'est une performance énorme. Après, ici en France, on ne connaît pas très bien le tennis. Donc les gens, quand un gars comme Lucas Pouille bat Raonic, on dit bon, bah, c'est Raonic. Non, ce n'est pas que Raonic. Raonic, avant la veille, 2 jours avant, il sort Zverev. Sur un match là aussi énorme. Et on se dit, mais Raonic, il est de retour. Personne ne va le battre. Qui pourra arrêter Raonic? 2 jours après, Lucas Pouille, il se tape Raonic en 4-7. Mmh. C'était magnifique. Donc Lucas Pouille, je pense que cette année, ça va être un déclic pour lui. Il a fait un très bon choix, le choix d'Amélie Mauresmo. Ouais. On savait qu'avant, elle était avec Andy Murray. Donc, elle avait déjà fait ses preuves. Certains.
Oui, il était content de sa collaboration avec Amélie Mauresmo.
Il était très, très, très content de sa collaboration avec Amélie Mauresmo. Les mauvaises langues disaient bon, Amélie Mauresmo, elle a quand même pris un top player. Donc, ouais, on ne sait pas trop son niveau. Mais ensuite, là, le travail déjà qu'elle effectue avec Lucas Pouille confirme qu'Amélie Mauresmo aujourd'hui fait partie des meilleurs avec Moya et Marianne Vajda.
Ouais.
Finalement, là, vous êtes en train d'éliminer complètement les mousquetaires. Les quatre, là, Simon, Gasquet, ouais. Mon fils et Tsonga. Et là, je vois qu'ils ont des trajectoires un petit peu parallèles parce que mon fils, il était pas au même endroit que les autres. Ouais. Là, est-ce qu'ils s'entendent toujours très bien, ces quatre-là?
Ces quatre-là s'entendent. Ils s'entendent très bien. Ils se sont toujours entendus. Mais ils ont pas tous les mêmes trajectoires. Mon fils, aujourd'hui, je pense le gros problème de mon fils, ça a toujours été sa nonchalance, en fait. Il y a des joueurs comme ça. Mon fils fait partie de ces joueurs-là qui sont rattrapés souvent par leur nonchalance. Et donc, du coup, mon fils n'a pas un énorme palmarès. Il a un énorme potentiel. Tous les joueurs le reconnaissent que Gaël, mon fils, a un talent énorme. Il a souvent été rattrapé par sa nonchalance. En ce qui concerne Gasquet et Tsonga, Gasquet, c'est plus des pépins physiques. On l'appelait quand même le Mozart du tennis. C'est pas rien quand même. Et quant à Tsonga, c'était plutôt psychologique. Il arrivait à aller loin dans des gros tournois, mais quand il tombait contre les top players, on parlait de Berdych tout à l'heure, Djokovic, Nadal, voire Federer, Murray, il n'arrivait pas à aller au-dessus, ou exceptionnellement, il passait au-dessus.
Ou même sur des matchs à gros enjeux, hein, on se rappelle à plusieurs fois en Coupe Davis finale, il faut sortir le gros match, hop, il a mal au coude.
Exactement, parce qu'en 2014 contre la Suisse, son match contre Wawrinka, il ne doit pas le perdre, il ne doit pas le perdre. Et derrière, quand mon fils joue contre Federer, mon fils montre entre guillemets à Tsonga, voilà comment on joue un match de Coupe Davis. Un match de Coupe Davis, c'est pas toi contre lui, non. C'est lui contre toute la France, parce qu'on était à Lille quand même. Et c'est ce que montrait mon fils. Et Federer, ce jour-là, bah, il a rien compris. Il a pris 3-7 contre mon fils. Et concernant Gilles Simon, c'est vraiment...
Régularité, non
Ouais, Gilles Simon, on peut parler de régularité, mais Gilles Simon, c'est le joueur français que tous les top players, Nadal, Federer et Djokovic, ils détestent jouer. S'il y a vraiment un joueur français qu'on déteste jouer, c'est Gilles Simon. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois qu'il avait affronté Djokovic à l'Open d'Australie. Ils sont partis en 5-7. Il était pas loin d'éliminer Djokovic. Il avait fait une super performance.
Alors moi, j'ai l'impression que pour les quatre, c'est avant tout un problème d'ordre psychologique. Puisque ce sont des tennismen qui ont un talent exceptionnel, qui ont absolument tout gagné dans les compétitions de jeunes, et arrivé en haut du tableau, quand il fallait être sous les feux des projecteurs, faire les unes des médias pendant Roland-Garros, quand on mettait nous de l'attente sur les épaules de ces tennismen-là, eh bien là, on ressentait avant tout la crispation chez ces joueurs-là.
Le problème, c'est qu'ils arrivaient à faire un gros match, mais un tournoi de tennis, ça ne s'arrête pas au gros match. Il faut derrière conclure. Et quand il faut conclure, là, psychologiquement, on avait du mal. On a vu Tsonga, par exemple, à Wimbledon, remonter des 2-7-0. Il avait remonté un 2-7-0 face à Federer pour derrière gagner le match. Sauf que par derrière, il joue et il perd. Il joue Djokovic, derrière, il perd. On a vu, si c'était ou en 2008, on a vu Tsonga, qui à l'époque sortait un peu de nulle part. Il bat quand même Nadal en demi-finale à l'Open d'Australie. Derrière, il joue Djokovic, il gagne le premier set. Et il s'écroule en 3-7. C'est ça le problème des tennismen français. Ils peuvent sortir l'énorme performance face à un top joueur. Mais quand il faut conclure, psychologiquement, on n'y est pas.
Quelques mots sur l'équipe de France féminine pour la Fed Cup, où Caroline Garcia, qui s'était brouillée avec, avec le reste du groupe, est revenue.
Ouais.
Finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette équipe de France-là?
Ouais. Déjà, pour revenir au tennis féminin, déjà, Caroline Garcia, il y a deux choses. Elle a fait un week-end magnifique, franchement, c'était super. Elle a gagné ses deux matchs, on n'en attendait pas plus d'elle. Et elle revient dans l'équipe. Les gens crient un peu au génie de Bennett, ouais, Julien Benneteau, il a réussi. Mais il faut savoir qu'elle a aussi l'optique des JO 2020 et elle est obligée d'avoir un minimum de sélection en équipe pour éventuellement pouvoir participer. Donc c'est, il y a Julien Benneteau, certes, qui a, voilà, c'est un peu son génie, il a réussi à la ramener, mais aussi Caroline Garcia, elle avait un petit truc derrière la tête. Donc voilà.
D'accord. Bon, messieurs, merci Aliou et Olivier pour. Ce gros décryptage de tennis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. On va siffler la fin du premier set. Julien, notre arbitre en régie, va envoyer une petite musique et on se retrouve dans quelques minutes dans Parlons Sport. À tout de suite. Il est 17h31, de retour en direct dans Parlons Sport sur Marmite FM avec nous dans les studios Aliou qui nous a fait un super débrief très complet sur le tennis et Olivier Néroneuf, président délégué du Rugby Club de Versailles. Nous sommes toujours dans l'attente d'avoir Nouradine Agne, le fameux supporter au cœur rouge, au cœur diabolique.
Il arrive, si tu l'appelles, il arrive.
Le fan de Manchester United, où est-il? Manchester qui affronte le PSG demain. Ça sera à Old Trafford, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Gros match, messieurs. Hein. Alors, je parlais dans l'introduction de trajectoire inverse au niveau des deux clubs, c'est-à-dire que Manchester, depuis qu'ils ont viré Mourinho, ils ont enchaîné, je sais pas, 11 victoires,
ou en tout cas 11 matchs sans défaite.
Ouais, ou 11 victoires en 12 matchs ou en 13 matchs,
ouais, c'est ça,
quelque chose comme ça. Ils sont redevenus qualifiables en Ligue des Champions. Au niveau de la première ligue, ils sont quatrième alors qu'ils étaient largués, mais complètement largués sous l'ère Mourinho. Alors que pour le PSG, eh bien là, le PSG, qui survole toujours le championnat de France, mais qui remplit aussi son infirmerie de manière très inquiétante, Julien.
Alors déjà il y a ça, mais la tendance s'est totalement inversée pour les deux clubs en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a trois mois, on disait tous qu'à 80% c'était Paris qui allait passer. Voilà, c'était le match qui était dans la poche. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à douter. Et c'est vrai qu'en plus, pas Neymar, pas Meunier, pas Cavani, du coup, depuis ce week-end. Verratti ne sera pas à 100%. Donc déjà, tu as une grosse partie de l'équipe qui n'est pas là.
Sans Rabiot.
Sans Rabiot en plus. Ouais. Mais bon, lui, il n'était plus trop dans l'effectif depuis cette année. Et voilà, c'est vrai que... Alors moi, je regarde un peu les matchs de Manchester depuis qu'on sait que c'est contre eux que Paris joue. Franchement, ouais, non seulement ils reviennent fort, mais en plus il y a des joueurs qui commencent. Pogba mène vraiment la danse à Manchester. Quand on sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain qui a un problème, ça va être compliqué. Surtout que Martial, Rashford à l'attaque de Manchester, ça va faire très mal à Kerrer et à Dani Alves là, qui vont rester,
sur la touche.
Et à Bernat de l'autre côté, ouais, bien sûr. Donc ça sent, mais en même temps ça promet du coup un autre match et peut-être une meilleure dispute.
Ouais, Pogba, un milieu de terrain qui a franchi la barre des 10 buts là en première ligue, sa meilleure performance depuis qu'il est revenu à Manchester. Commentaire par rapport à demain.
Bon, moi je suis pas je pourrais pas, le foot c'est pas trop, mais de ce que j'ai vu que tout le monde en parle, donc forcément. Moi, je pense que dans la double confrontation, si le PSG perd, il ne perdra pas en fonction de « il n'a pas un tel ou un tel, il n'a pas Neymar ou Cavani ». Non, je pense que il perdra au niveau des institutions. Je pense que Manchester est une grande institution.
Ouais, c'est vrai.
Et ils l'ont montré. Et le PSG, avec la communication, aussi avec la manière dont le mercato a été géré et la manière dont tout le reste, en fait, c'est tellement mal géré, je pense que c'est là où ils vont perdre. Parce que chaque fois que l'entraîneur du PSG prend la parole… Il ne dégage aucune sérénité, mais aucune. Je vois pas du tout comment ces joueurs, quand vous voyez le capitaine d'un bateau qui n'est pas serein, vous ne pouvez pas être serein. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Contrairement à l'entraîneur, je sais pas si on peut l'appeler aujourd'hui l'entraîneur par intérim de Manchester, j'ai lu la dernière fois qu'il disait à ses joueurs, mais c'est pas grave, c'est pas vous qui jouez, vous avez le maillot de Manchester. En gros, c'est ce qu'il leur inculquait. Il leur inculquait que ce qu'il y a sur vos épaules, là, c'est ça qui va gagner. Vous n'avez pas le talent, mais dès que vous avez le maillot de Manchester, vous avez le talent pour faire n'importe quel exploit. Donc, on voit au niveau de la communication, déjà, une certaine sérénité chez l'un qui n'est pas chez l'autre. On a l'un qui, chaque fois, prend le micro devant les médias, devant une conférence de presse, en train de pleurer. Et en plus de ça, on vous parlait du Carabio qui pour moi a été très 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 mal géré par le PSG. Et par derrière, ils n'ont pas su apporter une réponse en adéquation avec le problème parce qu'ils n'ont rien foutu au mercato. On attendait un milieu, un 6 de renommée. On attendait forcément, un N'Golo Kanté ou au pire des cas, le Paris Saint-Germain aurait dû casser la tirelire pour aller chercher un Sergio Busquets quand même. Ils n'ont rien fait de tout ça. Ils nous ont ramené quelqu'un qui n'est pas du tout connu, qui n'a pas joué depuis le mois de décembre, apparemment, Paredes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ça. Donc, si le Paris Saint-Germain passe, pour moi, c'est un miracle. Et pour moi, s'il passe ce cas-là...
Ah oui, à ce point-là, toi, tu dis carrément, il ne passe pas, quoi.
Ah oui, mais c'est le football de haut niveau, c'est... Désolé, mais c'est comme le tennis. Arrive à un moment donné, c'est plus les capacités en soi qui jouent, non. C'est tout ce qui gravite autour.
Les dynamiques.
Exactement, c'est tous ces petits détails qui font que on devient champion. Au niveau de l'institution, au niveau de la communication, au niveau aussi de savoir gérer les périodes de turbulence, parce que quand vous ne savez pas gérer une période de turbulence, ouais. N'importe quel club gère des périodes de turbulence. On a vu avec le Real Madrid qui, je pense, a gagné les trois dernières Ligues des Champions.
Ouais.
Mais à chaque fois, il y a eu des grosses périodes de turbulence jusqu'à qu'on avait remis en cause est-ce que Florentino Pérez n'allait pas se séparer de Zidane. Mais Zidane a toujours été serein, a toujours eu une bonne communication. Il a toujours su mettre les bons joueurs au bon moment sur le terrain. Et quand il avait des superstars, il a su les mettre sur le bon touche. Résultat, il est là le résultat. Mais là, avec ce que nous fait l'entraîneur du Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain bat Manchester United, pour moi, ça sera un miracle. Et s'il passe ce cap, bien sûr, ils iront au bout. Parce que vous ne pouvez pas traverser ça et ne pas aller au bout, non, je pense pas.
Olivier Néroneuf, le poids des institutions plus les dynamiques aujourd'hui ne sont pas favorables à une victoire du Paris Saint-Germain. Vous êtes d'accord avec ça ?
Mais je pense, oui, sur le fond, oui. Mais est-ce que l'inquiétude dans laquelle se situe maintenant se trouve aujourd'hui le Paris Saint-Germain avec toutes ces problèmes qui arrivent avec ses joueurs, est-ce que ça peut pas être une motivation supplémentaire pour les resserrer et améliorer leur collectif ? Parce que finalement, avec toutes leurs stars sur le terrain, ils ont une certaine, peut-être, de temps en temps, une certaine suffisance et chacun compte sur l'autre pour pouvoir. Est-ce que là, ils peuvent pas retrouver dans cette difficulté dans laquelle ils se retrouvent, du coup, une motivation supplémentaire?
Julien, vas-y.
Non, bah, moi, je retourne la question. Est-ce que justement, les problèmes actuels ne sont pas dus à un problème psychologique qui fait que, bah, tout ça arrive aujourd'hui parce que c'est en huitième de finale, du coup? Non, ils peuvent pas se redresser de ça vu que c'est, si c'est un problème psychologique, ils pourront pas se redresser là sur ce match-là.
Oui, le problème, c'est encore une fois, quand on a un problème du genre où on n'a pas nos meilleurs joueurs, on doit avoir un entraîneur qui dit on n'a pas les meilleurs joueurs, c'est pas grave, on va faire avec. On a vu le Barça, Messi était blessé, mais c'est pas pour autant qu'à l'époque, je sais plus, ils avaient qui comme entraîneur, il n'était pas en train de pleurnicher. Il disait, on n'aura pas Messi, mais on sera 11 quand même. On va pas être 10 contre 11, parce qu'on va le remplacer. Et c'est ce discours-là qu'aurait dû tenir l'entraîneur en disant, aujourd'hui, on est le Paris Saint-Germain, on est une grande équipe, on n'a pas Neymar, c'est pas grave, parce qu'on va le remplacer. Mais c'est en fait, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Ouais, parce que là, le signal envoyé par toute la direction du PSG, c'est panique à bord.
Ouais, c'est ça. C'est
on n'a plus Neymar, on n'a plus Cavani. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi?
On n'entend surtout pas Monsieur Elka, le grand patron là.
Nasser.
Ouais, Nasser. On n'entend pas.
En ce moment, je pense qu'il est un peu occupé avec les instances de l'UEFA où il a bridé
le
poste.
Il a réussi à entrer dans le comité exécutif. Exactement. De l'UEFA. Et puis, je pense qu'il attend surtout.
Le
résultat pour concrètement, il triomphera, il aura la parole triomphante si le Paris Saint-Germain se qualifie en quart de finale, et puis il le distribuera encore beaucoup d'éloges à l'égard de Thomas Tuchel, l'entraîneur. Mais effectivement, là, quand on fait le constat de tout ce qui ne va pas en ce moment même au PSG, c'est vrai que ça a l'air d'être inquiétant pour la suite, d'autant qu'en plus, la marque de fabrique du PSG ces dernières années, surtout en Ligue des Champions, c'est que individuellement parlant, ils ont beaucoup de talent. Les joueurs sont capables de faire des exploits individuels à tout moment sur le terrain. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un doute qui traverse l'esprit de l'équipe, ils n'ont pas le caractère suffisant pour pouvoir se surpasser. Dès qu'ils sont en dehors de leur zone de confort, ils sont perdus, quoi. Et ça a été toujours le défaut du Paris Saint-Germain ces dernières années, à force de ne pas être bousculé en Ligue 1, à force de se promener en championnat, en coupe et puis lors des phases de poule, ils ne sont pas habitués à sortir de leur zone de confort.
Exactement. Et aussi, il faut parler des automatismes aujourd'hui par rapport au Paris Saint-Germain. Demain, l'entraîneur, il aligne qui, quoi et comment? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Vous parlez tout à l'heure de Verratti. Est-ce que Verratti a 90 minutes dans les jambes?
Non, impossible. Pour le prochain match, c'est impossible.
Déjà, premièrement. Donc après, ensuite, la recrue que le Paris Saint-Germain est parti chercher, qui n'a pu jouer depuis le 9 décembre, a-t-il aujourd'hui 90 minutes dans les jambes pour un match de Champions League? Là aussi, la question se pose. Après, on nous parle aujourd'hui de mettre Marquinhos au milieu de terrain. Marquinhos, c'est pas un milieu de terrain. Marquinhos, c'est un défenseur central. Là, en fait, on fait du bricolage, en fait. C'est quand même incroyable. On est le Paris Saint-Germain. On prétend être l'un des prétendants à la Champions League. On arrive en huitième de finale en faisant du bricolage. C'est énorme.
Bon, messieurs, sans transition, on parle de bricolage, eh bien, on va tout de suite passer la parole à Olivier Néroneuf.
Attends, t'as cassé le débat d'un coup.
Non, mais on parle de bricolage. Donc d'accord. C'est une émission sponsorisée par Monsieur Bricolage, au passage.
Ok.
L'équipe de France de rugby, avec vous, Olivier Néroneuf, que de désillusions. Enfin, j'ai plus la stat en tête, mais sur les 9 derniers matchs, 8 défaites, quelque chose comme ça, au niveau du 15 de France. On s'était émerveillé contre le Pays de Galles, où je crois qu'à la mi-temps on mène 13-0 ou 16-0, quelque chose.
16-0. J'étais au Stade de France et on aurait dû mener plus de façon plus grande encore, parce que Parra, ce jour-là, n'a pas passé ses pénalités en début de match, et des pénalités qu'il passait d'habitude. Mais franchement, c'est un week-end de désolation complet.
L'équipe de France qui perd 44-8 contre l'Angleterre à Twickenham.
Oui, 44-8, mais il faut aussi additionner aussi la défaite des moins de 20 ans, qui après leur titre de champion du monde et qui avaient laminé l'année dernière, laminé les Anglais en finale du championnat du monde. Ils avaient gagné le Grand Chelem l'année dernière, donc là ils perdent de façon physique, sans discussion, absolument, ils sont écrasés en mêlée fermée, incroyable. Et puis nos femmes, nos filles, qui avaient quand même à l'automne battu les All Blacks quand elles sont venues, les All Blacks féminines quand elles sont venues en France, donc numéro un mondial, et là qui se font aussi marcher dessus par les Anglaises qui avaient vraiment préparé leur match. Alors maintenant, si on revient à l'équipe de France homme, ben finalement, si on regarde ce qui s'est passé hier, c'est d'abord, les Anglais nous ont donné une leçon de football-rugby. Football-rugby.
Ouais, le jeu au pied pratiqué par les Anglais. Alors, qui a mis en
grande difficulté. Il y a quatre essais qui sont marqués de la même façon.
Ça se fait de plus en plus, ça.
Oui, mais
pas
ça se fait...
Pas que pour les Anglais.
Oui, mais alors en plus, on a l'impression qu'il y a vraiment une analyse qui a été faite de la composition de l'équipe de France, stratégique, parce que finalement, quand vous avez deux ailiers qui ne sont pas des ailiers, que vous mettez Ficou d'un côté qui est centre, et de l'autre côté...
Penaud
qui est centre, donc déjà, et que vous mettez UG à l'arrière, qui est un Francarel, donc on peut se poser des problèmes sur le positionnement de l'axe derrière, spécialement quand on va jouer dans le dos. Et là, finalement, on a l'impression que les Anglais se sont régalés. Ils ont trouvé... D'abord, il y avait une supériorité évidente de l'équipe anglaise, qui actuellement est en pleine bourre.
Ouais.
Les deux dernières années, elle est montée en puissance, même si l'année dernière, les Français avaient gagné un peu par miracle au Stade de France. En plus, ils n'avaient pas leur équipe complète. Mais là, leur victoire en Irlande avait montré déjà la domination. C'est incroyable le nombre de coups de pied qu'ils ont fait hier dans le jeu courant. Donc en fait, ils sont en train de repositionner un jeu qui, à base de classicisme, mais qui est souvent interrompu par des recherches de position dans le terrain où il n'y a personne, par le pied, ou par coup de pied rasant ou coup de pied par-dessus. Et hier, ça a été une démonstration incroyable.
Mais ça, enfin, les jeux au pied, c'est pas une nouveauté dans le rugby. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que nous aussi, l'équipe de France, à l'époque du French Flair, on savait le faire aussi, ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est
J'ai l'impression qu'on découvre le rugby, en fait, en France.
Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression qu'hier, on avait une équipe de France qui jouait au basket, et puis en face, une équipe de NBA. C'était vraiment... C'était pas le même sport. Aliou?
Moi, j'avais une question. J'en avais deux, d'ailleurs. Est-ce que la France a déjà perdu comme ça face aux Anglais avec un tel écart, quand même? C'était 44-8.
Ouais, c'est l'écart, c'est 37 là, je crois, c'est ça?
C'est énorme.
Non, on est à un point en dessous du record.
Ouais, c'est ça.
Un point en dessous du record.
J'ai bien fait de poser la question.
Non, mais après, si on regarde dans les années, il y a une époque, les essais étaient à 3 points, après ils étaient à 4 points et à 5 points, donc les choses ont changé. Ah. Mais il n'empêche que là, il y a une domination totale, et quand on prend un essai au bout de 65 secondes.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
65 secondes encore. Mais c'est, bon, après, on voit les cadres n'ont pas tenu la route, quoi. Je veux dire, il paraît que Parra, fait des fautes de réception.
Et de relance aussi.
De relance. Ouais. Guirado qui plaque pas, qui fait des fautes au sol, qui fait des lancers approximatifs.
Alors ça, c'est récurrent, Guirado, les lancers sur les touches. Ouais. Franchement, enfin, je comprends pas.
Et puis Penaud qui prend un cadrage débordement par mai, alors que, bon, franchement, là... Alors, finalement, vous savez, quand vous êtes mené 30-8 à la mi-temps, il n'y a plus de match, c'est même plus la peine. Donc vous faites rentrer 2-3 joueurs, les pauvres, dans quelle situation ils sont mis? Et pour autant, bon, je veux dire, on a vu que Dupont quand il a rentré, quand il est rentré.
Antoine Dupont, ouais. À la mêlée.
Il a été là, vraiment plus que l'impact player. Bon, c'est quand même ce garçon est fantastique.
Donc le futur de l'équipe de France passe par les Antoine Dupont, les Romain Tamac. Ou alors est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui de parler d'un futur plus enthousiasmant?
Il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc en fait l'équipe qui a été composée. Elle était encore mi-figue, mi-raisin, parce que finalement, quand on rappelle Bastaro pour le mettre au centre, et qu'on met des trois quarts centre à l'aile, finalement, on se demande comment est positionné tout ça. Alors, il y a les gens qui disent, perdu pour perdu, il faut prendre de plus en plus des moins de 20 ans qui ont été champions du monde, et puis quitte à perdre, il faut les mettre sur le terrain pour pouvoir qu'on gagne en expérience.
Mais il y avait aussi le débat de... est-ce qu'on peut mettre Ntamack d'entrée? Est-ce que ça risque pas de le cramer et puis de le traumatiser pour la suite?
Oui, ça encore, c'est une question sur laquelle un sélectionneur à laquelle elle est légitime, cette question. Maintenant, la façon là, on a diminué le poids du pack par rapport au Pays de Galles.
Au premier match,
le Pays de Galles, le poids du paquet au Pays de Galles, c'était le poids le plus important qu'on ait jamais eu. Et en plus, on a souffert en mêlée. Et là, on décide de diminuer le poids du Mac pour mettre des gens un peu plus coureurs. Mais finalement, on a été complètement dépassés. Donc là, on revient à un problème de formation, à un problème qui est de structuration au niveau de la Fédération française de rugby. Et de comment est organisé le rugby aujourd'hui, et finalement, il y a un gouffre.
Ouais. Et moi, je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que hier, la France ne s'est pas vue trop beau par rapport à l'entame de match qu'ils ont eu face au Pays de Galles? Ils se sont dit qu'on va avoir la même entame de match chez les Anglais, et donc dès le départ ils ont pris une rouste et c'était plus rattrapable. Première question. La deuxième question, est-ce que en vérité, et encore une fois, on se voit pas trop beau par rapport à l'élite mondiale? On est septième, je pense, au classement
mondial. Non, dixième.
On est dixième au classement mondial.
On est tombé dixième.
Est-ce qu'on est vraiment dixième? Est-ce que on n'est pas tout simplement nul en rugby et il faut faire une refonte totale pour que la France puisse revenir?
Nul, c'est quand même sérieux, comme c'est quand même c'est un peu provocateur.
Ouais, on a
mais sur ce match-là, les Français sont pas vus trop beaux, parce qu'ils avaient une trouille terrible. Avaient une trouille terrible en rentrant sur le terrain. En fait, ils étaient là, pour mon avis, il faut absolument qu'on dure le plus longtemps possible sans prendre de points, et après on sait pas ce qui se passe. Hein, donc non, au contraire, là il n'y a aucune arrogance, et c'est les Anglais qui ont dû être arrogants superbement. Je pense qu'ils sont sortis du terrain en disant good game à tout le monde, merci les enfants, vous avez été gentils, mais on a passé une très bonne après-midi. Hein. Maintenant, non, je veux dire, on a l'impression que notre top 14 aujourd'hui c'est devenu la référence mondiale, mais finalement dans le top 14, ce qu'on a vu ces dernières années, on a vu une dimension athlétique qui a été de plus en plus grandie. D'accord. Avec surtout au profit d'un poids, un poids. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des défis physiques et avec des impacts considérables entre des gens qui peuvent avoir 85 kilos et d'autres 140.
Et beaucoup d'internationaux aussi.
Oui,
dans le top 14.
Des commotions, des problèmes. Et finalement, cette dimension athlétique qui a été acquise sur la force, je veux dire, on manque un problème, il y a une explosivité qui monte. Ouais, aujourd'hui, donc, l'explosivité, c'est la clé. Hein.
Donc le top 14 a pris une trajectoire à sens unique.
Ouais, voilà.
Le top 14 a basé, enfin le jeu de top 14 aujourd'hui est beaucoup basé sur un jeu de percussion,
de défi physique
et de défi physique, alors qu'aujourd'hui, enfin c'est plus le jeu d'évitement qu'on cherche à mettre en avant, et c'est ce qu'on voit avec la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, alors, et même l'Argentine qui
est bien plus beau à voir d'ailleurs, le jeu d'évitement.
Et face au Pays de Galles, quand on perd face au Pays de Galles, est-ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui? J'ai envie d'appeler ça une faute professionnelle, parce qu'on prend certains essais, c'est de l'amateurisme, soyons, voilà quoi, c'est pas tout provocateur, mais...
Mais ça a raison, vous avez raison, mais... Bon, ouais. Alors, il a plu toute la... Moi, j'étais au stade, hein, donc il a plu toute la soirée. Crachin, donc c'est compliqué, la balle de crachin. Et quand on est dans, par exemple, UG qui fait une faute dans son embut au moment d'aplatir... Vous savez, sur un terrain très glissant avec une pluie qui mouille comme ça, le ballon peut fuser. Donc le ballon a fusé et finalement il prend. Mais il se trouve que derrière il y a un joueur, donc c'est une faute aussi. Et puis après, bon, l'interception. Alors le rugby est récité, parce que Vahamina, sur les temps de jeu, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui on récite du rugby qui est appris, qui est décodé. On l'applique systématiquement, et en fait, la créativité personnelle est hors débat. Il est hors débat. Un Dupont, par exemple, c'est un anti-système, à mon avis. C'est l'impact player qui est capable de se libérer de tout ça. Mais Vahamina a été positionné là où il fallait, mais en fait, il n'a pas fait le bon geste.
Bon, alors, messieurs, voilà, je pense qu'on a assez tiré sur l'ambulance là, au cours de cette émission. Je vous propose qu'on parle d'un rugby qui gagne cette fois-ci. On va parler du rugby club de Versailles avec vous, Olivier Nereneuf, qui en est le président délégué. 13 matchs, 13 victoires, rien que ça. Vous jouez en honneur cette saison. Donc, on a bien compris que la Fédérale 3 vous tend les bras pour l'année prochaine. Est-ce que tous ces succès que vous avez, que vous avez enchaînés, c'était préparé, c'était attendu? Enfin, on connaissait l'objectif dès le départ. Mais est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu surpris?
Alors, donc, deux choses. On est descendu il y a 2 ans. Hein, donc, on s'était fixé 3 ans pour remonter. Premièrement. Deuxièmement, on a quand même un bon groupe. On a beaucoup, beaucoup de seniors. Ensuite, on a quand même une chance quand on a eu la composition de la poule. Et pour les experts, les gens qui connaissent bien, bon, on avait une équipe qui descendait de Fédéral 3 qui était reléguée, c'était le SCUF, un des vieux clubs français de Brennus, de Charles Brennus. Et puis, bon, dans les clubs avec lesquels on avait guerroyé l'année dernière, les Vincennes, les Bagneux, les Vitry, etc., ils se retrouvaient dans l'autre poule. Donc déjà, on se disait que c'était l'année, théoriquement, sur la composition de la poule, c'était l'année, si on passait pas cette année, c'était pas possible. Bon, après, il y a une mayonnaise qui a prise. Et petit à petit, les matchs se sont enchaînés les uns les autres. Alors donc, là, on est sur un 13 matchs, 13 victoires. On a 12 points d'avance. Il nous reste 5 matchs à faire. Ça veut dire que le premier de la poule monte en Fédéral 3 direct.
Ouais.
Donc, on va dire qu'on est plutôt bien positionné pour monter en Fédéral 3.
Éventuellement, match de barrage pour le deuxième et troisième, non?
Oui, ouais. pas avec nous. Le premier monte directement en Fédéral 3, les deux premiers de chaque poule.
Ouais.
D'ailleurs, dans l'autre poule, c'est Maison Lafitte qui a un point d'avance sur Vincennes. Et après, il y a le championnat de France. Le championnat de France qui est le Graal pour aller le plus loin possible. Donc actuellement, si on regarde dans les poules d'honneur en France, tout confondu, il y a trois clubs qui sont invaincus à ce stade. Il y a le Servette de Genève. Mais alors, on se dit pourquoi le Servette de Genève fait le championnat de France?
Bah oui, pourquoi?
Ben oui, parce qu'il est rattaché au Comité des Alpes. Il a une équipe de niveau Fédéral 1 Pro D2. Vous allez sur le site internet du Servette de Genève, vous allez voir la présentation, c'est un club professionnel. Donc, bon, hors délai, on ne sait même pas ce qu'il fait là-dedans. Et puis, il y a un club de Nouvelle-Aquitaine qui est pas loin de Toulouse et qui est encore invaincu. Donc, après les... Et puis, voilà. Donc, mais je veux dire, il ne faut pas se fixer sur l'invincibilité parce que hier, on a passé les 3 dernières minutes sur notre ligne et on menait 15-11. Ouais. S'ils aplatissaient, on perdait le match.
Donc, vous êtes imposé, effectivement, hier contre le rugby club de Paris
15.
Paris 15, 15-11. Oui, 15-11. Sur leur terrain.
Oui, alors c'est le terrain qui est juste contre l'héliport d'ici les Moulineaux. On a sans arrêt les hélicoptères qui passent au-dessus. Bon, mais on peut s'en affranchir. Mais franchement, bon, on va dire que c'était un match plutôt moyen. Et ce qu'il faudrait pas, c'est que les joueurs, en voyant qu'ils gagnent les matchs, se disent toujours, ben, on va gagner, quoi. Donc, il faut un moment, il faut mettre le but de chauffe, hein.
Et puis, la semaine d'avant, à domicile, Rugby Club de Versailles contre l'Entente Goussainville-Gonesse, 88-0, rien que ça.
Ouais, mais 88-0. Alors bon, le club de Gonesse-Goussainville est en pleine difficulté. D'abord, il est dernier de la poule, et puis ensuite, il n'a plus de réserve. Donc, il faut aussi souligner, par exemple, que notre réserve est première aussi de poule. Hein. Donc,
il joue avec du joueur carbo, concrètement.
Ouais, donc nous, on a un effectif qui est vaste. On se fixe véritablement les deux premières places, les premières places de la poule en réserve comme en première. En première, ça sera difficile qu'on ne soit pas premier à la fin de l'année. Il reste vraiment le SCUF à aller jouer à l'extérieur le dernier match. Mais le SCUF est quand même pas au niveau de l'année dernière. Donc voilà. Et pour le reste, le club va bien, quoi.
Alors quand on est dans votre fonction, on prépare déjà. Enfin, on pense forcément déjà à l'année prochaine. Quelle équipe, quel staff, s'il y a remonté en Fédéral 3, quel budget? Est-ce que vous préparez là déjà ces questions-là concernant le staff, les joueurs, les subventions?
Ça vous surprendra, mais la réponse est oui. Parce qu'on est quand même dans un club, on est au niveau régional, on est des amateurs. Hein. Bon, en fait, on a aussi on a un bureau aujourd'hui qui est constitué de 4-5 personnes, avec chacun un rôle particulier. Et le président, parce que je ne suis plus président, je suis que président délégué, avec la responsabilité de l'opérationnel au quotidien, surtout. Mais le président, c'est un entrepreneur et aussi qui a un réseau très important. Donc, actuellement, on a travaillé beaucoup sur le partenariat. Et par exemple, la semaine dernière, mercredi dernier, on était à Marcoussis pour un dîner de partenaires avec 58 personnes. On a eu la possibilité d'aller visiter la salle où il y a le simulateur de mêlée qui est unique dans le monde, pour la pousser, d'ailleurs, parce qu'on a un de nos entraîneurs qui est de l'équipe réserve et qui travaille à la fédération et qui est responsable, qui est ingénieur de recherche et qui est basé sur ce projet-là. Donc on a dynamisé tout le monde. On a vu d'ailleurs dans la soirée Serge Chimon qui est venu nous faire un petit speech, le vice-président de la fédération. On a vu Brunel aussi qui est passé un peu. Tout ça, c'était avant la déconvenue sévère du week-end. Mais bon, voilà, donc ça veut dire qu'on anime et déjà on est en train d'évaluer qui sera là encore l'année prochaine, parce que dans les aventures que vous faites, il y a toujours des gens qui ne sont pas intéressés d'aller au-delà, au niveau supérieur. Il faut voyager, il faut faire ensemble. Donc des gens qui vont peut-être s'arrêter. On est déjà dans cette phase d'évaluation.
Et moi, j'avais une question. Vu que vous êtes dans le monde amateur, donc la majorité des gens qui viennent taper le ballon, mais à l'extérieur de ça, ils ont quand même des activités. Et vu le climat social aujourd'hui en France, est-ce que le monde amateur dans le sport en général, mais plutôt dans le rugby, est-ce qu'il est impacté en fait aujourd'hui par ce qui se passe ?
Non, on n'est pas. Alors, je veux dire, la sociologie de Versailles est un peu particulière, hein, parce qu'on est essentiellement en jeunes avec des lycées, le scout traditionnel de Versailles, ils ont tous des ballons de rugby. Après, vous avez aussi tous les lycées et tous les jeunes. C'est plutôt un milieu de cadre, le rugby de Versailles. Donc, je veux dire, quand on est en haut du terrain de Stade Porchefontaine, c'est le rugby. En bas, c'est le foot. La sociologie est complètement différente. Le football club versaillais qui a 1100 licenciés. Un point que je voulais quand même ajouter, c'est que on a 546 joueurs aujourd'hui et plus de 600 licenciés. Et ça nous positionne au 7e rang de tous les clubs français sur les 1900 clubs français. Compris les top 14, hein, le Stade Toulousain est derrière nous, le Racing est derrière nous. Le premier club, c'est le Stade Français, avec pratiquement 700 licenciés. Nous, avec 546 joueurs, dont 400 jeunes entre 5 et 18 ans, on est numéro 1 en France pour les U19, 83 U19. On est numéro 1 en France pour les moins de 10, 73 moins de 10. Et au bilan final, on est 7e club français pour les termes de licenciés, ce qui est incroyable. Pour un club régional.
Alors donc l'école de rugby, justement, j'allais y venir. Comment vous la développez, parce que donc c'est une excellence du club, l'école de rugby.
Oui, avec pratiquement 15% de licenciés en 2 ans en moins dans la Fédération française de rugby. Nous, on est encore en croissance. Aujourd'hui, on a 254 enfants entre 6 et 13 ans. Donc voilà. Donc
vous pensez que le bassin des Yvelines, voire le territoire de Versailles est particulier et propice à cela, c'est ça ?
Voilà, et puis en plus, il y a une section rugby sport qui s'ouvre au mois de septembre à Jules Ferry, au lycée Jules Ferry à Versailles, qui, dans le lancement, il va se faire incessamment sous peu. Tout a été finalisé, donc les clignotants sont en vert. Il y a 130 enfants qui jouent rugby à Saint-Jean-Ulst. Donc c'est une tradition là-bas. Et vous avez des AS partout. Donc franchement, il y a un vivier.
Alors j'ai une petite dernière question sur le sujet des commotions, parce qu'on on en parle beaucoup ces derniers temps suite à des faits divers évidemment tragiques. On se demande s'il y a lieu de modifier les règles du plaquage, d'interdire même tout simplement le plaquage chez les catégories de jeunes. Est-ce que vous sentez qu'il y a des parents ou des jeunes qui sont davantage sensibilisés sur cette question ?
Bien sûr, mais ceci, maintenant il y a un protocole qui a été mis en place. Dès qu'il y a une suspicion de commotion, dans l'heure qui suit, la licence du joueur est retirée. Il doit aller passer des examens immédiatement, rapidement chez un médecin. Il doit suivre un petit traitement pour savoir s'il pour l'aptitude à revenir sur le terrain. Donc de ce côté-là, c'est pris en compte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau des parents. Et on essaye toujours, parce que le rugby versaillais, on a toujours dit que c'était un rugby à la versaillaise, comme on n'a pas de gros, on a toujours développé un jeu de contournement et d'évitement. On essaye justement de mettre en avant notre spécificité de conduite du jeu pour la différencier de ce qui se passe à un échelon professionnel, qui est un échelon vraiment de percussion.
Bien, et bien, ce seront les derniers mots de l'émission, messieurs. L'émission arrive déjà à son terme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Merci
à lui, Wallace-San. Pour tes belles analyses sur le tennis.
Merci.
Olivier Néreneuve, donc prochain match du rugby club de Versailles, vous accueillez le Clermont Club.
Clermont-sur-Oise. C'est pas Clermont-Ferrand, hein, c'est Clermont-sur-Oise.
Clermont-sur-Oise.
Ils n'ont pas de réserve non plus, ils sont forfaits en réserve, vous vous rendez compte.
Ah d'accord. Bon, eh bien, on espère un pronostic ambitieux pour votre équipe.
Merci beaucoup.
Merci Julien. Et puis évidemment, on croise les doigts demain
pour
le fameux match. Merci. On se retrouve non pas lundi prochain. Lundi prochain, ce sera un best-of. Mais le lundi, on sera aux alentours du 25 février, n'est-ce pas, pour revenir sur toute l'actualité sportive locale. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.